8h en temps universel, 10h ici à Paris. Merci d'écouter RFI. Bonjour à tous. Dans 10 minutes, la première partie de votre émission appel sur l'actualité consacrée à vos questions. Et dans 40 minutes, le débat, la stratégie politique du PDCI-RDA qui vacille en Côte d'Ivoire et pour cause. Tidiane Thiam, le chef du parti et candidat pour la présidentielle d'octobre prochain, se retrouve privé de scrutin. Hier, la justice l'a radié de la liste électorale. Que vous inspire ce retournement de situation? On attend vos réactions standards. 33 9 693 693 70. Mais tout de suite, le journal avec Pierre Boudias. Bonjour Pierre.
Bonjour Namori, bonjour à toutes et à tous. La dépaille du pape François exposée à la basilique Saint-Pierre. Des milliers de catholiques sont attendus pour rendre un dernier hommage au souverain pontife. Le religieux argentin qui n'aura cependant pas fait l'unanimité auprès de tous les fidèles, vous l'entendrez. L'avenir de l'Ukraine se discute à Londres. Européens et Américains se réunissent autour d'une délégation ukrainienne pour avancer sur un cessez-le-feu. De nouvelles négociations. Alors qu'hier, Volodymyr Zelensky a ouvert la porte à des pourparlers directs. La justice ivoirienne ordonne la radiation de Tidjane Thiam des listes électorales. Le candidat à la présidentielle avait perdu la nationalité ivoirienne au moment de son inscription, selon les juges. L'opposant dénonce un déni de justice. Et puis ce coup de filet de la gendarmerie française en Guyane, démantèlement du plus grand réseau d'orpaillage illégal dans le département d'Amérique du Sud, un fléau pour l'environnement et les populations. Les fidèles catholiques invités à un dernier au revoir au pape François. La dépouille du prélat argentin décédé lundi est exposée depuis ce matin en la basilique Saint-Pierre de Rome et elle y restera jusqu'à samedi. Et les funérailles officielles du souverain pontife. Pendant 12 ans, il aura tenu sur certains sujets des propositions progressistes, que ce soit sur l'immigration ou l'écologie. Il a également ouvert la porte à des avancées sur plusieurs questions sociétales. Une volonté de réforme qui lui aura valu le désamour des catholiques les plus traditionnalistes. C'est le cas de François Xavier, jeune catholique de 20 ans, interrogé sur le parvis de l'église très conservatrice de Saint-Nicolas-du-Chardonnay à Paris.
Il sort de l'église, missel à la main. François Xavier explique toutefois que ce n'est pas un livre liturgique comme les autres. Celui-là est doré sur tranche.
C'est le missel de Saint-Pie-V, et donc avec les prières en latin.
Car le latin, ce jeune catholique, y tient. Et pour lui, le pape François était trop éloigné des communautés traditionnalistes. Alors, quelles sont ses attentes concernant le prochain pape?
Je souhaiterais que le pape soit beaucoup plus ouvert. Je parle du rite latin et de la forme de la messe.
Et il dresse le portrait de son pape idéal.
Le prochain pape devrait être soucieux de conserver l'intégrité et surtout l'unité de l'Église. Et donc, l'objectif, c'est de ne pas céder au courant actuel, le wokisme, l'avortement. Il faudrait que le prochain pape donne une ligne claire concernant le mariage homosexuel, etc. Et donc forcément, il faudrait un accompagnement spirituel là-dedans pour lutter contre ce mal, contre le péché.
Pour le jeune homme, le cardinal Sarah, guinéen très conservateur, serait le meilleur successeur au pape François.
Laurence Théo, de nombreux chefs d'État et de gouvernement sont attendus samedi lors des obsèques du pape François, parmi eux Emmanuel Macron, mais également Donald Trump, qui fera le déplacement malgré les critiques de François contre sa politique migratoire. Le président américain avec lequel Volodymyr Zelensky annonce vouloir s'entretenir au Vatican, le président ukrainien sera en effet également présent. Et en attendant ce rendez-vous à Rome, c'est à Londres que la question d'un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou va se discuter. Réunion ce mercredi au Royaume-Uni, une semaine après un premier sommet à Paris, des représentants américains, britanniques, français et ukrainiens se retrouvent. Elle devait se dérouler au niveau ministériel, mais se tiendra finalement à un niveau subalterne, annonce le ministère des Affaires étrangères britannique. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à négocier avec la Russie pour mettre fin à l'invasion russe, ce qui serait une première depuis 2022, mais seulement après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. La veille, Vladimir Poutine, le président russe, avait également émis des commentaires. En ce sens, on écoute le président ukrainien.
Nous sommes prêts pour cette étape. Nous sommes également prêts à confirmer qu'après le cessez-le-feu, nous serons disposés à nous asseoir à la table des négociations, quelle que soit la forme que cela prendra, afin d'éviter toute impasse du type « l'Ukraine peut faire ceci, ne peut pas faire cela, veut ceci », quelle que soit la forme que cela prendra. Car à ce moment-là, nous estimons avoir obtenu au moins un résultat.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les droits de douane chinois pourraient baisser de façon substantielle dans un futur proche. C'est ce qu'a assuré hier Donald Trump, qui reconnaît que ses taxes à 145% sont très élevées. Il se dit confiant quant aux résultats de négociations avec Pékin. Dans ce contexte, le président chinois Xi Jinping estime que les droits de douane nuisent au commerce mondial. Pékin qui s'était agacé en début de semaine des pays qui pratiquent, je cite, l'apaisement à l'égard de Washington. RFI, il est 8h05 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné hier la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. La justice avait été saisie par un citoyen qui remettait en question la citoyenneté ivoirienne de l'opposant. Ce leader de l'opposition, désigné candidat à la présidentielle d'octobre par son parti la semaine dernière, dénonce lui un déni de justice. Les explications depuis la capitale ivoirienne avec Binta Diagne.
Tout est parti d'une réclamation portée par un citoyen qui estime que Tidjane Thiam n'était pas ivoirien au moment de son inscription sur la liste électorale en 2022. Débouté par la commission électorale indépendante, ce citoyen s'est tourné vers le tribunal de première instance d'Abidjan qui a penché en sa faveur et ordonné la radiation de Tidjane Thiam sur la liste électorale. Maître Patrice Gueux se réjouit de cette décision.
Thiam étant sur la liste de façon irrégulière, parce qu'au moins il s'inscrivait, il était français. Alors à partir du moment lui-même, il nous a donné les éléments d'appréciation. Un élément pour prouver qu'il est français, un deuxième pour prouver qu'il n'est plus français. On se demande, mais quand il s'inscrivait, le jour, la minute, à l'instant T où il s'inscrivait là, quelle était sa nationalité ?
La juge s'appuie sur l'article 48 du Code de la nationalité qui stipule qu'un Ivoirien majeur perd la nationalité ivoirienne au bout de 15 ans s'il acquiert volontairement une autre nationalité. Les avocats de Tidjane Thiam ont tenté de prouver que leur client est né français et donc que cette disposition du Code de la nationalité ne s'applique pas à leur client. Maître Rodrigue Dadjé, avocat de Tidjane Thiam.
J'ai produit le registre d'état civil européen où il a été déclaré en tant qu'enfant français. Donc pour moi, c'est largement suffisant. Mais c'est la position de la présidente et nous la respectons. Mais nous ne la partageons pas.
À ce stade, plus aucun recours n'est possible. Le tribunal doit maintenant notifier la commission électorale indépendante de sa décision, la CEI, qui doit publier la liste électorale définitive le 20 juin prochain. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Le Premier ministre indien dénonce un acte odieux après une attaque dans le Cachemire indien. 26 personnes ont été tuées hier dans cette fusillade, la plus meurtrière contre des civils depuis les années 2000, selon les autorités locales. Il s'agit de touristes en déplacement dans cette région contestée également par le Pakistan. Une vaste traque a été lancée pour retrouver les auteurs de cet assaut qui n'ont pour le moment pas été identifiés. Le président français est lui attendu à Madagascar. Ce matin, Emmanuel Macron poursuit sa tournée dans l'océan Indien après un passage par les départements de la Réunion et de Mayotte. Sur la grande île, il doit notamment évoquer la question des îles Éparses, un archipel français revendiqué par le gouvernement malgache. La question mémoriale et de la décolonisation doit également être sur la table. En Guyane, maintenant, le plus grand réseau d'orpaillage illégal a été démantelé. C'était le 15 avril dernier, mais nous ne l'avons appris qu'hier. La section de recherche de Cayenne enquêtait sur ce réseau depuis maintenant 2 mois. L'orpaillage illégal ou l'extraction d'or illégale est un véritable fléau pour l'environnement, la santé, l'économie et les populations. Ce démantèlement est une avancée importante dans la lutte contre cette pratique criminelle. Le général Jean-Christophe Saint-Yves, commandant de gendarmerie de Guyane, revient sur cette opération, des propos recueillis par Lou Ecal.
Une cinquantaine de gendarmes et 2 mois d'enquête auront permis de démanteler ce vaste réseau criminel. Une opération d'envergure, souligne le général Saint-Yves.
Elle a permis l'interpellation de 3 individus de nationalité brésilienne, dont les 2 têtes de réseau, plus d'un individu français.
10 tonnes de matériel utilisé pour l'exploitation et pour le transport de l'or ont été saisies. Pour le général Saint-Yves, cette opération est un tournant dans la lutte contre l'orpaillage illégal.
Régulièrement, on interpelle des orpailleurs illégaux en action d'orpaillage illégal un peu partout en Guyane. On interpelle un véhicule avec tout un tas de matériel d'orpaillage, mais sans remonter sur celui qui l'organise. Or là, dans ce cadre-là, on est remonté sur l'organisateur. C'est une enquête de fond. Ça permet de voir que, effectivement, on a un réseau logistique totalement organisé.
Le travail continue, assure le général Saint-Yves. Entre 400 et 500 sites d'extraction sont éparpillés dans tout le territoire.
Ces sites sont des petits sites qui sont explosés partout en Guyane, qui sont extrêmement diffus et divers. On a aussi, sur l'ouest et sur le sud de la Guyane, d'autres réseaux logistiques qui alimentent les sites d'orpaillage illégal. Et évidemment, la lutte ne s'arrête pas là.
Combattre l'orpaillage illégal est un enjeu majeur en Guyane. Les conséquences de cette activité sont lourdes pour l'environnement comme pour la santé des populations.
Et puis France toujours avec ce déplacement en Isère dans le sud de l'Hexagone du Premier ministre François Bayrou et des ministres de la Justice et de l'Intérieur. Tous 3 se rendront à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Objectif, exprimer leur soutien au personnel pénitentiaire après de nouvelles tensions dans la nuit de lundi à mardi autour de centres pénitentiaires et de leurs agents cibles d'attaque depuis près de 10 jours. Voilà, il est presque 10h10 ici à Paris. Dans un instant, appel sur l'actualité avec Namori Dosso.
Merci Pierre, c'était le Journal International présenté par Pierre Boudias.